Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, je veux dire merci aux bergers de nous avoir invités et à Evelyne aussi, parce qu'ils ne nous connaissaient pas. Ils ont pris un risque. Ils ne savent pas encore ce qui va se passer aujourd'hui. Et vous non plus, hein. Mais on va laisser faire le Saint-Esprit, vous êtes d'accord? C'est lui qui doit agir et pas nous. C'est lui qui doit faire quelque chose avec puissance et avec force. Il y a un texte de la Bible, si vous avez une Bible avec vous, prenez-le, c'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10 et au verset 7. Jésus est en train de parler à ses disciples. Est-ce que j'ai des disciples de Jésus ici? Oh, il y en a qui n'ont pas dit Amen là. Ah, bon. Vous pouvez réagir, hein. Moi, je suis très... j'aime bien qu'on réagisse quand je prie, quand je prêche. Vous êtes d'accord? Alors allez-y, dites Amen, Alléluia. Wow, Alléluia. Lève-toi et dis Preach, brother. Les Américains font ça, Preach, brother. Prêche, mon frère, ils disent. Alors, il est écrit, allez, donc verset 7 du chapitre 10 de Matthieu, je répète, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et Jésus est en train de mandater les disciples pour quelque chose de très particulier. D'abord, il leur dit « Allez ». Et vous remarquerez que nulle part il est écrit « Revenez ». Vous savez, quand vous partez, vous ne savez pas si vous revenez. Amen. Mais il dit « N'allez pas pour faire n'importe quoi. N'allez pas pour vous représenter vous. Vous allez aller pour représenter le royaume de Dieu. Car il est proche. » Et vous savez, dans notre pays, la Belgique, nous avons un roi. Il s'appelle Philippe. C'est un très beau prénom d'ailleurs. Et le roi Philippe, quand il se déplace quelque part, c'est le royaume qui se déplace. La différence entre un roi et un président, c'est que le président, il est élu pour quelques années, tandis que le roi, lui, il est né roi. Et en Belgique, toute la Belgique appartient au roi. Tout ce qui est dans le royaume de Belgique appartient au roi. Est-ce que vous saviez ça? Pourquoi? Parce que c'est le roi. Et c'est son royaume. Jésus-Christ, il est notre roi. Et par la foi, il vit en nous. Lorsque vous allez quelque part, Jésus est avec vous. Et parce que Jésus est avec vous, le royaume est avec vous. Alléluia. Et quand le royaume est avec vous, alors ce qui vient du royaume va se produire. Amen. Alors il dit, on va dire le royaume est proche. Nous allons annoncer Jésus. Nous allons dire autour de nous, Jésus est là pour vous bénir. Quand Jésus est quelque part, il bénit. Il guérit les malades, il console les personnes, il encourage ceux qui sont découragés. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez déjà été encouragé par le Saint-Esprit? Amen. Parce qu'il est celui qui nous encourage, celui qui nous fait du bien, celui qui vient nous réconforter, qui vient nous consoler, c'est le consolateur. Donc quand je vais quelque part, que vous alliez au magasin, que vous alliez travailler, que vous alliez faire une visite à l'hôpital, vous êtes un chrétien déguisé en homme d'affaires, en employé de bureau, en client pour le médecin. Vous comprenez ce que je veux dire? Jésus vit en vous. Jésus vit en toi, mon frère, ma sœur. Dis-le à ton voisin, dis-le à quelqu'un. Jésus vit en toi. Jésus est là. Jésus vit en toi. C'est extraordinaire. Alors si Jésus vit en toi, tout est possible. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce qu'il y a des gens qui croient ici? Alléluia! Tout est possible à celui qui croit, celui qui a mis sa foi en Jésus, va voir les choses impossibles se passer. Et il dit ceci d'une manière intéressante, guérissez les malades. Waouh! Ça commence bien. Ressusciter les morts. Je vais me dire, ça c'est un peu plus difficile. Hein? C'est déjà quelqu'un qui a gradué dans la guérison. Mais je vais vous raconter une chose. Un dimanche matin, la première réunion commence et je joue la guitare. Et je chante un chant qui dit « Car ta bonté vaut mieux que la vie ». Vous connaissez ce chant-là ?« Car ta bonté ». Bon, ma voix est un petit peu cassée aujourd'hui. Et je lis ma partition, je joue ma guitare, et tout d'un coup, je vois quelqu'un qui est debout au milieu de la salle et qui me montre une personne sur une chaise. Et elle me dit, elle est morte. Ouh, dit ça commence bien. Je savais pas que je chantais si faux que ça, faire mourir les gens. Ouf, dit Seigneur, le cher pasteur n'était pas là ce jour-là. On avait un visiteur américain qui venait partager avec nous. Et je me suis dit, Seigneur, pourquoi tu me fais ça à moi? Aujourd'hui, dimanche matin, à 10h10 du matin, je ne comprends pas. Alors je me suis arrêté de jouer, j'ai dit aux frères et sœurs qui étaient là, notre sœur vient de partir près du Seigneur. Je ne voulais pas employer le mot mort, ça fait peur aux gens parfois. Et évidemment, on était dans la consternation. Il y avait une dame qui était infirmière et qui travaillait au service d'urgence. Elle s'appelait Martine. Je lui ai dit, Martine, est-ce que tu veux vérifier que la sœur est vraiment morte? Et elle a fait quelques tests. Elle a fait quelques tests. Et elle me dit, elle est morte. Mais moi, je ne suis pas encore content. Il y avait une autre dame qui était une directrice d'école, une personne qui avait du caractère. Je dis, est-ce que tu veux regarder? Elle vérifie le cœur, voir s'il y a une respiration, s'il y a un pouls, etc. Puis elle me dit, elle est morte. Et effectivement, la dame, elle était affaissée sur elle-même. Ses lèvres étaient toutes bleues. Elle avait perdu, son dentier était en train de sortir. Et elle avait perdu ses urines. Et ça, c'est un signe de mort, c'est une dame d'un certain âge. Et il y a le diacre qui vient me trouver, qui me dit, Pierre, qu'est-ce qu'on fait? On appelle une ambulance. Je dis, non, on va prier pour elle. Puis je me dis, aïe, qu'est-ce que je viens de dire? On va prier pour elle, elle est morte. Pourquoi je vais faire ça, moi? Alors je me suis dit, j'ai un Américain, là. Les Américains, ils vont sur la Lune, ils ont sûrement tout connu. Et puis, il y avait un ancien dans l'église, un monsieur d'un certain âge, c'était un homme de foi, je dis, je vais l'appeler, et je vais les laisser prier. Vous savez, on remet le bébé à quelqu'un d'autre, là. Hein? On dit, c'est eux qui vont le faire. Puis on s'est trouvé autour de la femme, et moi j'attendais dans le silence que le frère ancien prie, ou que le frère américain prie. Mais le frère ancien, il priait les mains jointes, la bouche fermée, et je suis persuadé qu'il priait dans son cœur, mais il n'a jamais ouvert les yeux. Je me suis dit, mince alors. Et puis le frère américain, lui, il murmurait tout bas en anglais une prière. Il y avait un silence de... Je vois que c'est une expression que vous connaissez. Et j'ai fait la prière la plus théologique de toute ma carrière. J'ai dit, Seigneur, tu la laisses ou tu la reprends ou tu la renvoies ici, mais tu fais quelque chose au nom de Jésus. Et quand j'ai eu terminé cette prière, la dame a secoué les mains. Elle a ouvert les yeux. Elle s'est dit, pourquoi je suis toute mouillée? Et puis, elle nous a raconté plus tard qu'elle était allée dans un endroit extraordinaire où il y avait... Elle savait que c'était Jésus qui était là. Elle n'a pas vu son visage. Elle a vu la lumière qui brillait là, Il y avait des fleurs, il y avait de la musique qu'elle n'avait jamais entendue, des couleurs qu'elle n'avait jamais vues. Et puis le Seigneur lui a dit, retourne, c'est pas ton temps. Et elle a encore vécu une dizaine d'années comme cela. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est lui qui l'a ressuscité. Mais il a voulu passer par nous pour nous apprendre quelque chose. C'est qu'on ne doit pas craindre de prier pour quelqu'un quand le Saint-Esprit nous conduit dans cette situation-là. On ne savait pas quoi faire. Mais la seule décision que je pouvais prendre, c'était de prier pour cette femme. Et Dieu a agi avec puissance. Il a touché cette femme, il l'a ramenée à la vie. Et elle est devenue un témoin de la puissance de résurrection de Jésus. Amen. Savez-vous pourquoi Jésus nous demande de ressusciter les morts? Vous voulez le savoir? Parce qu'il est le ressuscité. Il est le ressuscité. Dites-le avec moi. Il est le ressuscité. C'est la raison pour laquelle, il va ressusciter les morts. C'est la raison pour laquelle il veut guérir les malades. Il veut guérir les maladies physiques, mais il veut guérir aussi les maladies morales et spirituelles. Beaucoup de gens souffrent de problèmes moraux et spirituels. Et la Bible nous parle d'une femme, au chapitre 5 de l'Évangile, une femme qui avait une perte de sang depuis 12 années. Marc chapitre 5, verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'éprouvait aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Cette femme est en train de vivre quelque chose de terrible. Elle a tout essayé dans sa vie. Elle a dépensé toute sa fortune. Elle a peut-être dû vendre sa maison pour essayer de se faire soigner. Elle a perdu du poids. Elle a même été rejetée parce que la loi de Moïse ne permettait pas qu'une femme qui avait une perte de sang puisse vivre une vie normale avec les autres. Elle a vécu le rejet. Elle a vécu l'abandon. Elle a vécu la maladie qui l'a clouée au sol. Elle n'avait plus rien. Elle était comme une clocharde. Personne ne savait rien faire pour elle. Elle n'avait plus aucun espoir. Peut-être qu'au milieu de nous, certains d'entre vos frères et sœurs souffrent de ce type de rejet. Peut-être vous vous sentez mis de côté, pas aimé, pas accepté, pas encouragé. Il vous manque peut-être cette communion fraternelle avec vos frères et sœurs. Peut-être vous êtes là et puis quelqu'un vous a rejeté, votre mari, votre épouse, vos enfants. Mais Dieu est venu pour vous guérir et vous délivrer, comme cette femme qui avait cette perte de sang. Et elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler non pas de la religion, mais elle a entendu parler d'un homme qui faisait du bien. Regardez les Actes des Apôtres, au chapitre 10 et au verset 38. L'apôtre Pierre va décrire le ministère de Jésus-Christ. Actes, chapitre 10, verset 38. Pierre, l'apôtre, décrit le ministère de Jésus et il le décrit à des païens, à des Romains, des soldats. Il dit, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Jésus allait de lieu en lieu et il faisait du bien. Il guérissait. Le mot « guérir » qui est utilisé ici, il y a plusieurs mots dans le grec pour décrire la guérison. Mais le mot qui est utilisé ici, c'est aussi le mot délivrer, sauver, libérer. J'aimerais vous dire cet après-midi que Jésus est venu pour vous libérer, vous sauver, vous guérir, vous délivrer. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes ici parce que c'est une sainte convocation que Dieu a fait pour chacun d'entre vous. Parce que le Jésus de Nazareth que je prêche est au milieu de nous cet après-midi. Il est déjà en train de passer près de vous. Peut-être vous avez senti sa main sur votre épaule. Peut-être vous avez senti un frisson. Peut-être une parole que j'ai dite a touché votre cœur. Parce que le Saint-Esprit est en train d'agir. Le Saint-Esprit est en train de faire ce miracle maintenant. Un miracle de bénédiction, un miracle de libération. Amen. Vous n'êtes pas venu passer une après-midi parce que vous n'avez rien à faire. Vous êtes venu ici parce que vous voulez le rencontrer. Parce que vous voulez le toucher. Parce que vous voulez être délivré de l'empire du diable. Amen. Quand l'apôtre Pierre, parle de l'empire, il parle, le mot empire utilisé ici est le mot tyrannie. C'est-à-dire que le diable est un tyran. Vous savez ce que c'est un tyran? C'est quelqu'un qui domine sur votre vie. C'est quelqu'un qui a donné une addiction dans votre vie. Vous dépendez de lui. Comme il y a des gens qui dépendent de la drogue, comme il y a des gens qui dépendent de la cigarette, comme il y a des gens qui dépendent du sexe, de l'argent, des jeux, ou toute autre chose. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont pris par les jeux vidéo, les consoles de jeux. Ils passent des heures, des journées entières, des nuits entières à jouer avec leurs consoles. C'est une addiction. Le diable a mis sur eux une tyrannie. Ils dominent leur vie. Mais Jésus est venu pour délivrer. Il est venu pour briser les œuvres du diable. Et c'est ce qu'il a fait à la croix. Il a vaincu les dominations et les autorités en triomphant d'elles par la croix. Il les a dépouillées. Alléluia. Oh, c'est une excellente nouvelle. Et Jésus, cet après-midi, veut également vous toucher. Il veut vous délivrer de l'empire du diable. Voyez-vous cette femme qui avait 12 ans de maladie, 12 ans non-stop, a essayé d'être guérie. Peut-être il y a des gens au milieu de nous, ça fait 2-3 ans que vous allez voir les médecins, peut-être qu'ils ne trouvent pas de solution. Ils vous font faire toutes sortes d'examens, ils ne trouvent pas de solution. Il y a un jeune homme qui est venu dans une de nos réunions. Nous donnions un séminaire sur la guérison. Christine et moi, nous donnons des séminaires sur la guérison dans les églises qui nous le demandent. Et nous donnions ce séminaire, et puis il y avait à peu près 800-900 personnes dans l'église. Et puis on a prié pour tout le monde. Heureusement, on n'était pas tout seul. Il y avait les gens de l'église qui priaient avec nous parce qu'on aurait prié toute la nuit. Et puis il y a un monsieur qui m'appelle il y a quelques jours. Et il me dit, vous savez, quand vous êtes venu, moi j'avais un cancer dans les intestins. Une tumeur de 27 cm de long. Les médecins avaient dit qu'il fallait absolument opérer, faire de la chimio et toutes sortes de choses. Mais quand on a prié pour moi, les douleurs que j'avais dans les intestins ont disparu instantanément. J'ai refait des examens et les médecins n'ont plus trouvé la tumeur. Elle était disparue. Jésus l'avait enlevée. Amen. Et vous savez, les médecins ont dit, je ne crois pas que vous êtes guéri. Puis il a dit, monsieur, j'ai plus de douleur. Sur le scanner, sur l'IRM, vous avez regardé, il n'y a plus de cancer. Jésus m'a guéri. Et puis ils n'étaient pas contents parce que Jésus avait guéri. Ils avaient perdu un client. Ce soir, Jésus va vous guérir. Ceci dit, je ne suis pas contre les médecins, les infirmières ou tout ça. Au contraire, on travaille souvent avec eux et on aime qu'ils soient dans nos réunions pour confirmer les guérisons. Mais l'important, c'est de savoir que quel que soit le diagnostic qu'on t'a donné, quelle que soit la dimension de ce diagnostic, peut-être on t'a dit que jamais tu serais guéri. Et puis là, tu sors de la mort. Tu es guéri. J'ai été appelé au chevet d'un monsieur qui était à l'hôpital. Ça faisait plusieurs semaines qu'il était dans le coma. Et les médecins avaient décidé de le débrancher. Alors ils m'ont appelé, ils m'ont dit, la famille m'a appelé, m'a dit, est-ce que tu veux venir prier pour le frère? Alors je suis allé, je suis rentré dans cette chambre, il fallait mettre un costume stérile, il fallait prendre des précautions. Et cet homme était sur le lit, et il était, visiblement, il n'était pas vivant. Les médecins avaient diagnostiqué qu'il était mort cérébral. Son cerveau était mort. Et ils allaient le débrancher, la famille ne savait pas trop ce qu'il fallait faire, c'est toujours difficile. Puis moi, quand j'ai vu le monsieur, je ne connaissais pas ce monsieur-là, quand je l'ai vu sur le lit, oh, je me suis dit, Seigneur, oh, le pauvre, il n'y a plus que la peau sur les os. J'ai dit, Seigneur, il n'y a que toi qui peux faire quelque chose. J'ai commencé à prier en langue, j'ai demandé au Saint-Esprit qu'il me conduise, et tout simplement, j'ai imposé les mains à cet homme, j'ai appelé la vie sur lui. Et rien ne s'est passé. On est parti. Mais quelques jours plus tard, alors que le médecin est dans sa chambre, il prend des notes sur toutes les machines, je ne sais pas tout quoi, et cet homme s'assied dans le lit et commence à parler au médecin. Le médecin, il tombe du lit. Je dis, c'est quoi ça? Il dit, parce qu'il était censé, s'il se réveillait, d'être un légume. On devait le nourrir, il allait être aveugle, sourd, muet, enfin, toute la pire catastrophe. Et là, voilà que le monsieur s'assied dans le lit et il parle au médecin. Et le médecin, il avait mis son masque sur le visage et c'était un médecin du Congo, République du Congo. Et cet homme lui dit, ôte ton masque, je t'ai reconnu. Et le docteur, il sort en courant, il appelle tout le monde, il dit, venez voir, il est vivant. Alors, tous les médecins, les infirmières sont arrivés, ils ont dit, mais c'est incroyable. Et puis cet homme, moi je ne le connaissais pas, mais quand j'ai prié pour lui, alors qu'il était mort cérébral, il m'a vu tel que j'étais. Il s'est trouvé dans la pièce, il était là, et il a vu que je priais pour lui. Et la vie est revenue en lui. C'est la puissance de Dieu. Dieu fait des choses qui nous dépassent. Dieu va au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Amen. Ça, c'est la puissance de Dieu. Alors, Jésus nous a dit d'aller prêcher et de prier pour les malades. Et puis cette femme, elle entend que Jésus va passer quelque part. Mes amis, quand vous avez des réunions comme celle-ci, dites à vos amis, venez voir parce que Jésus va passer là aujourd'hui. Dites-leur, venez écouter parce que vous allez être touchés. Les gens, ils pensent peut-être qu'ils vont venir dans une cérémonie religieuse traditionnelle, mais vous dites, non, c'est différent. Jésus est là et il va vous toucher. On chante, on danse, on fait de la musique, on applaudit le Seigneur, on le célèbre parce que Jésus est présent. Waouh! Dites-le autour de vous. Vous devriez doubler d'ici la semaine prochaine. Je ne sais pas si vous avez toutes les semaines des réunions, mais la prochaine réunion, tous les 15 jours. Alors, si c'est tous les 15 jours, c'est triplé alors. Hein? Amen. Quand on est à l'école et qu'on double, ce n'est pas bien. Mais ici, si vous doublez, c'est très bien. Amen. Dis à ton voisin, je vais doubler la fois prochaine. Je ne vais pas venir tout seul, je vais doubler. Dis-le à quelqu'un, je vais venir avec quelqu'un. Alors il y a toute cette foule et les disciples qui sont autour de Jésus pour le protéger. Il y a toute cette foule qui suit Jésus. Et tout d'un coup, la femme, elle se dit, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Mais pourquoi est-ce qu'elle dit cela? Les gens voulaient toucher Jésus. Il y en a même qui se jetaient dessus. Je ne sais pas si vous imaginez. Hein? Ils se jetaient sur Jésus pour le toucher. Vous voulez que je vous montre le verset? On va le lire ensemble. Chapitre 3 de l'évangile de Saint Marc, verset 10. « Car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. » Vous aviez déjà lu ça dans votre Bible? Soulignez-le, hein? Et les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'est crié « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Marc chapitre 6, verset 56. En quelque lieu qu'il arriva, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Waouh, c'est fort, hein? Il y a d'autres passages aussi, je ne vais pas tout vous le lire. Toucher Jésus. Cette femme avait compris une chose, c'est qu'elle devait toucher Jésus. Et cet après-midi, mes amis, frères et sœurs, monsieur, madame, jeune fille, jeune homme, peut-être vous êtes là pour la première fois, mais Jésus est ici, et si vous voulez le toucher, il va transformer votre vie. La première chose que Jésus veut faire, c'est de faire de vous une nouvelle créature. Peut-être vous vivez avec votre passé, vous le portez comme un boulet, vous le portez comme un sac rempli de plomb et de pierre, et vous marchez, et c'est tout le temps dur, mais aujourd'hui, et on l'a dit tout à l'heure, le berger de cette assemblée l'a dit, Jésus veut pardonner nos péchés. Christine l'a répété, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Amen. Il y a trois choses dans notre vie que Dieu veut pardonner. Les iniquités, c'est les héritages ancestraux, c'est ce qu'il y a dans notre ligne de sang. Le péché, c'est le péché. On est tous des pécheurs. On est nés pécheurs et un pécheur, il fait quoi? Il commet des péchés, vous êtes d'accord? Et puis il y a les transgressions. Et les transgressions, c'est quand on connaît ce qu'on ne doit pas faire et qu'on le fait quand même. Est-ce qu'il y a des gens ici qui transgressent parfois? Vous savez ce qu'il ne faut pas faire, vous le faites. Quand vous êtes sur la route, il paraît que c'est 80 chez vous, et vous roulez à 90. Est-ce qu'il y a des gens qui font des transgressions de vitesse ici? C'est 30 à l'heure, vous faites 50. Dieu nous donne une loi et nous transgressons la loi de Dieu. Dieu veut pardonner vos iniquités. Il veut couper tout ce qui est dans votre ligne de sang et qui se reproduit de génération en génération. Dieu veut vous libérer de votre cœur de pécheur, votre cœur de pierre. Il va mettre un cœur de chair. Et puis Dieu veut vous aider à vivre non pas selon la chair, mais selon l'esprit, afin de ne plus commettre de transgressions. Est-ce que ce n'est pas un beau programme? Ça, c'est la première chose que Dieu veut faire. Et peut-être tu es là et tu dis, moi, je ne connais pas ce Jésus. C'est le moment de le connaître. C'est le moment de lui donner ta vie. C'est le moment de dire, je veux le toucher. Je veux toucher le bord de son vêtement. Maintenant, tu es peut-être venu ici avec une maladie incurable, orpheline. On donne toutes sortes de noms à des maladies, parfois. Parfois, quand j'entends le nom d'une maladie, je me demande ce que ça veut dire. C'est tellement compliqué. Mais j'aimerais vous dire une chose cet après-midi. C'est que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom qui peut se nommer sur la terre, sous la terre, dans les cieux. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Quel que soit le nom de ta maladie, si tu la donnes à Jésus, elle ne sera plus ta maladie, parce qu'il l'a prise à la croix. Amen. Jésus veut te guérir aujourd'hui. Il veut que tu entres dans le processus de la guérison. Il y a plusieurs choses qui se passent dans la guérison. Il y a des guérisons instantanées. Dimanche passé, nous étions en Suisse italienne, Christine et moi. On a prié pour beaucoup de personnes. J'ai prié pour un monsieur, il est venu me trouver. Il me dit, monsieur, moi j'ai un problème dans le bras, c'est mon épaule me fait très mal, je ne peux pas bouger le bras plus haut que ça. Je dis, ok. Il dit, sois guéri au nom de Jésus. Il dit, essaye. Il essaye, il dit, waouh. Il dit, ça va? Il me dit, oui, c'est très bien. Ça, c'est instantané. Il y a des gens pour qui vous priez, et j'ai prié pour cet homme, il me disait, moi monsieur, ça ne marche jamais avec moi. Ça, c'est bon, le premier client qui vient pour que vous priez pour lui dans la ligne de prière, devant tout le monde, il dit, de toute façon, ça ne marchera pas. Ça encourage tout le monde. Les gens disent, si ça ne marche pas, je vais m'asseoir. Et puis je prie pour cet homme. Et je lui dis, demain tu vas revenir témoigner que ça a marché. Le lendemain, il était le premier dans la salle de réunion en disant, ça a marché. Je veux le dire à tout le monde ce soir. Jésus m'a guéri. Il y a parfois des guérisons qui vont prendre du temps. Christine, quand elle a eu son hépatite, elle n'a pas été guérie comme ça d'un coup. On l'a oint d'huile. J'ai mis tellement d'huile que je me suis dit, en hiver, elle ne va jamais rouiller. On a prié pour elle, on lui a posé les mains, on a chassé les démons, on a proclamé la guérison. Il n'y a rien qui se passait. Mais Christine est une femme intelligente, c'est ma femme. Elle a pris sa Bible et elle a étudié tous les versets qui parlaient de guérison depuis l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau. Ça lui a pris une semaine, plus ou moins. Et puis le dimanche matin, alors que je préparais le déjeuner pour les enfants, qu'on préparait pour aller au culte ensemble, Christine était en haut de l'escalier, on avait une vieille maison avec un grand escalier comme ça. Elle dit, chérie, je suis guérie. Ah, j'ai dit, merveilleux, gloire à Dieu, j'étais très content. Ça m'arrangeait bien. Je devais faire la vaisselle tous les jours. Je dis, formidable chérie, formidable. Je te prépare du café et ton déjeuner. Mais j'aimerais vous dire, juste entre vous et moi, elle ne pouvait plus sentir l'odeur du café avec cette hépatite, c'est une maladie du foie. Rien que l'odeur du café, elle était malade. Donc on ne faisait plus de café là. Ou presque pas. Quand elle n'était pas là, je faisais du café quand elle était dans sa chambre. Et puis le chocolat. Elle ne pouvait pas le voir, ça la rendait malade. Et vous savez qu'en Belgique, on a le meilleur chocolat du monde. Même s'il vient d'Afrique ou je ne sais d'où, mais c'est le meilleur chocolat du monde. Et ce matin-là, je lui ai dit, chérie, tu es guérie? Il me dit oui. Petit déjeuner. Du café, mais du café. Solide, là. Hein. Vous mettiez la cuillère dans la tasse, bougez pas. Et une tartine de choco, mais... La moitié du pot, c'est sur la tartine. Et puis je lui ai dit, tu bois et tu manges. Elle a bu, elle a mangé, elle n'a plus jamais été malade. Terminé. Jésus l'avait guérie. Alléluia. La persévérance. Alors je vais chez notre médecin, qui était une amie, et je lui dis, Christine est guérie. Elle me dit, Pierre, ça va revenir tous les ans. J'ai dit, dans le nom de Jésus. Je lis cette parole. Je ne veux pas que ça revienne. Je voulais plus faire la vaisselle, alors. Ça n'est jamais revenu. Alléluia. Voyez-vous, cette femme, à la perte de sang, ces personnes qui étaient là, ils voulaient une chose. Ils avaient les yeux sur Jésus. J'aimerais cet après-midi que vous gardiez vos yeux sur Jésus. Il est le maître. Il est le Seigneur. Il est le roi. Il est celui qui est assis à la droite du Père et qui intercède pour nous. Il est celui qui veut vous guérir cet après-midi, qui veut vous délivrer, vous sauver. Et je vais faire un premier appel, si vous permettez, un premier appel si vous voulez donner votre vie à Jésus. Peut-être jamais vous n'avez dit à Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Je reconnais que tu es mort à la croix pour ma vie. Et aujourd'hui, je veux te donner ma vie. Ça va être mon premier appel. C'est un appel important. Vous savez, à l'âge de 18 ans, moi je suis né dans l'église réformée protestante. Toute ma famille était missionnaire sur le champ missionnaire en Afrique, dans les îles, etc. Et j'entendais l'évangile depuis que j'étais tout petit. Je lisais la Bible, je priais, j'allais au temple et puis on faisait l'éducation chrétienne là-bas. Mais je ne connaissais pas Jésus. Je le connaissais dans ma tête. Pour moi, c'était quelqu'un de formidable. Ça pouvait même être mon héros, mais ce n'était pas mon sauveur. Et un dimanche matin, le pasteur qui prêchait ce matin-là a dit, « Vous pouvez tout connaître de la Bible. » J'ai dit, « Waouh, moi je connais la Bible. » Il dit, vous pouvez connaître toute la cérémonie du dimanche matin. Vous savez quand on se lève, quand on s'assoit, quand on chante tel cantique et quand... Vous pouvez même faire partie de la chorale et faire partie du groupe de théâtre. Moi, je faisais partie de tout ça. Je dis, waouh, j'étais fier. Je dis, oh, il parle de moi, là. Il dit, mais si vous ne connaissez pas celui qui est mort pour vous sur la croix, il vous manque l'essentiel. Ah, j'ai dit, là, c'est aussi moi. Je ne le connais pas. Et ce jour-là, j'ai prié dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, je veux te connaître. C'était tellement fort. Du haut de mes 17-18 ans, j'allais avoir 18 ans. C'était en 1967-68, les barricades à Paris, vous avez connu. Et là, j'ai donné ma vie à Jésus. Ce matin-là, personne ne m'a dit « donne ta vie à Jésus », personne ne m'a dit « avance-toi ». Juste que le pasteur disait « si tu ne le connais pas, il faut que tu le connaisses ». Et j'ai dit « je veux toucher Jésus, je veux lui donner la main, je veux marcher avec lui ». Ma vie a été radicalement changée ce jour-là. Changée. J'ai relu la Bible, mais plus avec le même regard. J'allais au culte le dimanche matin, mais plus avec les mêmes intentions de m'asseoir à côté de la plus belle fille, de sortir avec mes copains ou d'aller prendre l'apéritif après le culte. Je ne voulais plus ça. Je voulais servir Jésus. Et à partir de là, j'ai commencé à le servir et à faire tout ce qu'il me demandait de faire. Et la première chose que le pasteur m'a demandé de faire, c'est nettoyer les toilettes. Et je l'ai fait avec une joie extraordinaire parce que je servais le Seigneur. Au moins, j'avais un service pour le Seigneur. Frotter les toilettes. Alléluia. Je mettais des gants jusque-là. La Bible dit dans le psaume 107, verset 20, « Il envoya sa parole et il les guérit. » Et je vais prier pour vous. Amen. Est-ce qu'on est prêt à prier? On peut baisser nos têtes un instant. Bien-aimé Seigneur, tu connais chaque homme et chaque femme qui est ici. Chaque jeune homme, chaque jeune fille, chaque personne âgée, chaque personne qui sent le rejet dans son cœur, qui a vécu l'abandon, le déchirement, chaque personne qui a besoin d'une grâce particulière, tu les connais. Je te demande, cher Saint-Esprit, d'agir, de couler, de venir te manifester dans leur cœur. Si vous n'avez jamais demandé à Jésus de devenir votre sauveur, de pardonner vos iniquités, vos péchés, vos transgressions, je vous demandais de faire une prière avec moi. Quand vous aurez fait cette prière, comme un geste prophétique, que le lien du péché qui vous avait environné tombe dans le nom de Jésus. Et votre conversion à Jésus-Christ, votre engagement pour Jésus. Et je prie que rien ne puisse vous arrêter de faire cette décision. Aucun sorcier, aucune puissance des ténèbres, aucune dépendance de famille, aucun gris-gris ne peut vous empêcher de faire cette décision. Je déclare dans le nom de Jésus que le sang de l'agneau brise tous ces interdits qui viennent de l'ennemi. Aucun démon de l'enfer ne peut vous empêcher de vous approcher de Jésus. Je le déclare solennellement dans le nom de Jésus à cause de sa puissance. Alors peut-être tu es là et tu dis, moi, ça me concerne, ça brûle à l'intérieur de moi, je veux faire cette prière. Tu dis, Seigneur Jésus, dis-le dans ton cœur, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je m'approche de toi. Je reconnais que je suis pécheur et que mon péché me sépare de toi. Je reconnais mes iniquités, l'héritage de mes pères. Je reconnais mes transgressions. Et aujourd'hui, je renonce à tout cela. Et je te demande pardon pour qui j'ai été et ce que j'ai fait contre toi. Aujourd'hui, Seigneur, Je t'invite à devenir mon sauveur. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour moi, que tu as versé ton sang et que ce sang me purifie de tout péché. Je reconnais, dites-lui, que je n'ai pas été racheté par de l'or, de l'argent ou des choses précieuses, mais par le sang précieux de Christ. Et c'est cela que je veux aujourd'hui. Alors je te donne ma vie. Je me consacre à toi. Je veux devenir aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, ton enfant bien-aimé, ta fille bien-aimée, ton fils bien-aimé, ton jeune homme bien-aimé, ta jeune fille bien-aimée, ton vieillard bien-aimé. C'est ce que je te demande aujourd'hui, Seigneur. Et c'est dans le nom de Jésus que je prie. Alléluia.